sur Fréquence Mistral 99.3. Je vous propose une émission qui s'appelle Pour la dignité et qui est consacrée aux droits humains et aux actions, aux enquêtes, aux recherches d'Amnesty International en France et par le monde.
Et bonjour à tous et toutes pour la dignité, cette émission pour les droits humains, donc avec Régis Coulanges, responsable formation d'Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, salut à tous. Voilà, je vous propose une nouvelle émission. On va un petit peu revenir sur notre festival de films que nous avons fait à Digne. Ensuite, on parlera du président israélien qui s'est rendu en Hongrie, mais qui n'a pas été arrêté. Et puis, on parlera d'un jeune Israélien qui refuse de servir dans l'armée. Il nous expliquera pourquoi. On parlera aussi des violences faites aux femmes et notamment du consentement. Seul un oui est un oui. On parlera des manifestations en Turquie et puis des actions du groupe. Voilà, alors on va commencer par le bilan du festival ACDH au cinéma pour les droits humains. Nous avions prévu 3 séances au Ciné-Étoile et une séance au lycée Alexandra Davinel avec une classe de terminale. Voilà, on est un peu déçus parce qu'il n'y a pas autant de monde que d'habitude. On a l'impression que les gens vont un petit peu moins au cinéma, je ne sais pas. On avait un premier film, Berlin été 42, qui était un film qui parlait de la résistance de jeunes Allemands au nazisme. Et on avait invité un ami, Andrew Knapp, qui est un historien, professeur émérite d'université et spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. C'était très intéressant et on va vous passer l'interview qu'Odile a réalisée avec lui. Et justement, il revient sur le fait que Hitler avait été élu démocratiquement. Et quand on met un homme fort comme ça, antidémocratique au pouvoir, c'est vite fait de perdre ce qui fait la démocratie, le fait de pouvoir contester, le fait de pouvoir manifester, de s'opposer. Ça peut aller très vite et on a des exemples actuels, hélas. Donc c'est une mise en... une alerte de faire attention de ne pas mettre des gens qui sont contre la liberté à des postes de très haute responsabilité. On l'écoutera dans un petit moment. On n'avait que 25 personnes pour ce film, qui est un film magnifique. On a fait une deuxième séance de court-métrage. Alors là, on était content parce qu'il y avait 55 personnes dans la salle. Et donc, il y avait un film sur les droits des femmes, un film contre l'homophobie en Russie, des emprisonnements abusifs, un devoir de mémoire, un film sur la pauvreté, le travail des enfants, un film qui s'appelle 30-18 sur le harcèlement scolaire. 30-18, c'est le numéro d'appel pour les jeunes qui sont harcelés dans leur milieu scolaire notamment. Et puis, un film sur le droit au logement. Voilà, des courts-métrages qui ont beaucoup plu. Les notes ont été très bonnes puisque les spectateurs votent. Il s'agit d'un festival sur tout le Grand Sud-Est et ça donne des prix, que des prix du public. Voilà, et puis on a terminé le 27 mars avec un long métrage documentaire qui raconte l'histoire d'un sauvetage en mer par SOS Méditerranée. Et puis toute cette période où on voit le sauvetage in extremis, puisque l'embarcation pneumatique avait tout un côté qui était crevé et ils allaient mourir, comme des milliers d'autres. Et ils ont été sauvés de justesse. Et on voit ensuite toutes les discussions qu'il y a sur le bateau entre les médecins, les bénévoles, les professionnels, tous ces échanges entre ces migrants, souvent très jeunes, qui cherchent une vie meilleure, et puis les gens qui viennent les sauver et honorer la marine, puisque c'est un devoir de marin de sauver des naufragés. Voilà, et ce film était suivi par un court-métrage qui s'appelle Emilia et qui parle d'une femme espagnole qui se révolte devant le fait qu'on laisse des enfants, notamment, dans la rue et qui les accueille chez elle de façon très, très spontanée et très joyeuse. C'est un très beau film. Voilà, et puis donc on a fait aussi donc un court-métrage dans une classe de terminale sur une jeune femme iranienne qui a décidé de ne plus porter le voile. Ses parents l'appellent parce qu'ils vont déménager et elle va les aider, mais ils doivent aller chez un cousin et le père est gêné parce qu'elle ne porte pas le voile et elle a décidé de ne plus le porter. Et il s'inquiète de la réaction du cousin. Et en fait, ça se passe assez bien. Il y a la maman qui a plus de mal parce qu'elle a tellement été embrigadée dans ce port obligatoire du voile que c'est difficile pour elle d'accepter cela de sa fille. Mais elle tient bon. Et c'était intéressant de discuter justement sur le port du voile.
Mais elle déménage où ?
En Iran. Hein.
En Iran ?
Oui, oui.
Et c'est en Iran qu'elle ne porte pas le voile.
Voilà. Et en fait, c'est à Beyrouth, c'est très dangereux, c'est extrêmement dangereux de ne pas porter le voile. Dans les autres villes, il y a des femmes qui ne portent pas le voile, et sciemment. Mais à un moment, on la voit dans la rue, et il y a un jeune homme là, qui ne fait pas partie du film, qui vient et qui l'avertit discrètement, lui disant « Vous savez, il y a des policiers qui sont en civil, là, qui vous suivent. » Alors du coup, le film s'interrompt et elle rentre vite, parce qu'elle prend des risques quand même énormes. Voilà. Et en fait, en Iran, ils sont contre ce port obligatoire du voile. Il faut laisser les femmes libres de le porter ou de pas le porter. Voilà. Donc, c'était intéressant de discuter avec ces jeunes sur ce film qui s'appelle Move. On va maintenant écouter, si vous le voulez bien, Andrew Knapp, historien, qui nous parle de Berlin, été 42, la résistance de jeunes Allemands au nazisme.
Andrew Knapp, vous êtes historien et spécialisé dans la Seconde Guerre mondiale. On vient de voir dans le cadre du festival au cinéma pour les droits humains avec Amnesty International un film qui s'appelle Berlin, été 42. Ça remue évidemment beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire que ce film démontre ?
Je crois que l'un des messages les plus importants, c'est que une fois qu'on s'est débarrassé de la démocratie, s'opposer au gouvernement devient mille fois plus difficile qu'en démocratie. En démocratie, on peut essayer de changer des choses par le vote, on peut essayer de changer les choses en descendant dans la rue, on peut essayer de changer les choses en écrivant dans la presse, par exemple. Bien sûr, les changements qu'on peut souhaiter ont du mal à arriver, et même des changements qu'on ne souhaite absolument pas arrivent malgré nous. Mais faire valoir ces droits civiques à essayer de changer les choses, c'est encore relativement facile en démocratie. Ce film démontre, par contre, à quel point c'est horriblement périlleux, malgré l'insouciance des personnages principaux, ou l'insouciance apparente au moins des personnages principaux, de jeunes opposants à Hitler qui essaient de distribuer des tracts, qui essaient de faire de l'espionnage un peu amateur au profit des soviétiques en guerre contre l'Allemagne nazie. Eux, pour s'opposer au régime, ils risquaient la mort et c'est en effet ce qui leur est arrivé. Donc voilà le message principal et ça porte au niveau des individus. L'une des choses les plus émouvantes dans ce film, c'est qu'on apprend à connaître ces individus et avec leurs qualités, leurs défauts, et ils vont mourir à la fin.
On est épargné, vous l'avez dit vous-même, il n'y a pas de scène vraiment horrible de torture, on nous a épargné ça, mais évidemment, il s'est passé des choses ignobles.
Il s'est passé des choses ignobles, et ce qu'on voit avec les protagonistes, c'est une sorte de simulacre de justice, où les gens passent par des tribunaux, mais ce sont des tribunaux absolument truqués, qui rendent un verdict avec notamment un avocat à la défense complètement bidon. Mais on est encore loin des camps d'extermination. Donc c'est pour ça que je voulais dire que, bien sûr, ce qu'on voyait, c'était très loin d'être le pire de ce qu'était capable ce régime.
Vous parliez aussi en début de séance des pourcentages, d'après les sondages, les personnes qui croient encore en la démocratie.
Oui, alors ce que je voulais citer, c'était les gens qui estimaient que la démocratie en France, de nos jours, fonctionnait bien. Et mettons qu'un petit tiers estime que la démocratie fonctionne bien, on peut imaginer des tas de raisons pour le dire, notamment dans les années toutes récentes. Et donc ça laisse un gros deux tiers qui estime que ça fonctionne pas très bien, voire pas du tout bien. Mais pour moi, peut-être le plus inquiétant, c'est le fait qu'il y a 34% qui estiment qu'il serait une bonne idée d'avoir un chef, un homme, qui n'a pas à se préoccuper du Parlement et des élections. Et là, on va tout droit à la dictature. Et peut-être qu'une certaine proportion des gens qui pensent ainsi estiment que ça serait pour un certain temps, pour remettre de l'ordre, et après on pourrait revenir à la normale. Malheureusement, rien n'est moins sûr. Donc, même si on estime que la démocratie fonctionne mal, il faut être vigilant, essayer de le défendre.
Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter qui vous semble important pour défendre les droits de l'homme ?
Maintenir autant que possible les sauvegardes qui existent à la démocratie et dénoncer ceux qui, comme notre ministre de l'Intérieur, estiment que l'état de droit n'est ni sacré ni inchangeable.
Was wünschst du dir?
Zum Beispiel keine Angst mehr zu haben.
Angst wovor?
Vor allem vor Spinnen, vor Käfern. Den Nazis, beim Zahnarzt. Der Liebe. Funkgerät.
Für Nachrichten. An die Freunde.
Danke, Berlin.
Es hat funktioniert. Das muss gefeiert werden.
Voilà, c'était donc un extrait, la fin du film après Andrew Knapp, évidemment.
Voilà. On va écouter maintenant la chanson de Barbara à Göttingen, qui parle des enfants allemands et des enfants français. Ce sont tous des enfants.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. Pas de quai, pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même, à Göttingen, à Göttingen. Ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen. Et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen. Bien sûr, nous avons la Seine, et puis notre bois de Seine. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. C'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime à Göttingen, à Göttingen. Et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen. La, la, la, la, la, la. Tout de même à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
On va maintenant parler de la visite qui a eu lieu de Benjamin Netanyahou en Hongrie. Cette visite s'est déroulée alors même qu'un mandat d'arrêt international a été émis à son encontre par la Cour pénale internationale en novembre 2024. Le dirigeant israélien et son ancien ministre de la Défense sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité présumés dans le cadre de l'offensive menée à Gaza. Il est soupçonné d'avoir utilisé la faim comme méthode de guerre, d'avoir attaqué intentionnellement des civils et commis des crimes tels que des meurtres, des persécutions et d'autres actes inhumains. La Cour pénale internationale a été créée afin que les victimes de génocide et de crimes de guerre ou contre l'humanité obtiennent justice et que les crimes qui choquent la conscience humaine ne s'accompagnent plus jamais d'impunité. Un principe fondamental du statut de Rome est que de toutes les personnes faisant l'objet de mandats d'arrêt de la CPI doivent être arrêtées et remises à la Cour sans possibilité d'immunité lorsqu'elles se trouvent sous la juridiction des États membres de la CPI, y compris sur leur territoire. Toutefois, la Cour ne dispose d'aucun moyen coercitif pour procéder à une arrestation et ne dispose pas de force de police et ne peut que potentiellement sanctionner un État membre non coopératif. En tant qu'État membre de la Cour pénale internationale, la Hongrie aurait dû être dans l'obligation d'arrêter le Premier ministre israélien et de le remettre à la Cour. Le pays est en effet signataire du statut de Rome, le traité international à l'origine de la CPI. Il a signé en 1999, puis ratifié 2 ans plus tard pendant le premier mandat de Viktor Orban. Cependant, les autorités hongroises n'ont jamais promulgué la convention associée au statut de Rome pour des raisons de conformité avec sa constitution. De fait, elles estiment qu'elles ne sont pas tenues de se conformer aux décisions émises par la Cour pénale internationale à l'égard des dirigeants israéliens. Donc cet accueil est une manœuvre cynique visant à saper la CPI et son travail, ainsi qu'une insulte aux victimes de ces crimes, qui se tournent vers la Cour pour obtenir justice. L'invitation de la Hongrie témoigne d'un mépris pour le droit international et confirme que des criminels de guerre présumés recherchés par la CPI sont les bienvenus dans les rues d'un État membre de l'Union européenne. C'est un message clair qui est envoyé. La Hongrie sera le soutien indéfectible d'Israël au sein de l'Union européenne, de même que les États-Unis, puisqu'il est aujourd'hui aux États-Unis. Depuis les attaques du 7 octobre, les relations entre la Hongrie et Israël se sont particulièrement intensifiées. Le gouvernement hongrois a exprimé son soutien à Israël à plusieurs reprises et régulièrement fait obstruction à toute prise de position diplomatique de l'Union européenne. La CPI fait désormais face à un rejet mondial de la part des dirigeants puissants qui cherchent à saper la règle de droit international et à éliminer la possibilité de responsabilité pour les plus puissants. La visite de Benjamin Netanyahou en Hongrie ne doit pas devenir un indicateur de tendance de l'avenir des droits humains. Alors nous avons demandé, bien sûr, que la Hongrie arrête Netanyahou, ce qu'elle n'a pas fait. On demande aux dirigeants européens et mondiaux de mettre fin à leur silence honteux et à leur inaction. Et on demande au procureur de la CPI d'enquêter, de poursuivre tous les crimes d'Israël. La Hongrie devrait également le faire en appliquant le principe de la juridiction universelle. Voilà, on va écouter maintenant un poème mis en chanson par HK. C'est un poème de Refat Al-Harer, qui est un poète palestinien.
S'il est écrit quelque part que je dois mourir, il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza,
que ton nom soit interdit,
Gaza, Gaza,
toi l'enfant de Palestine,
Gaza, Gaza,
qui se relève et qui s'obstine,
Gaza, Gaza,
de tout ton cœur, de tout ton être,
Gaza, Gaza,
à ne jamais disparaître,
Gaza, Gaza,
de cette terre qui t'a vu naître,
Gaza, Gaza,
de ce pays, de tes ancêtres,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd,
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd,
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes,
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame,
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir,
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir,
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité,
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité,
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr,
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures,
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel,
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle,
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent,
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant,
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres,
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète,
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre,
il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort apporte l'espoir,
que ma mort devienne une histoire,
que ma mort devienne une histoire.
Très beau poème mis en chanson par HK. Je vais vous parler maintenant d'un jeune Israélien qui refuse de servir dans l'armée. Il s'appelle Itamar Greenberg. Et c'est vrai que ce sont des personnes qu'on n'entend pas beaucoup. Alors, Amnesty International lui a donné la parole. Il nous a dit qu'il venait d'une famille à Redim, qui sont des juifs ultra-orthodoxes. À l'âge de 12 ans, j'ai compris qu'en tant qu'enfant à Redim, la seule solution pour m'intégrer dans la société israélienne consistait à rejoindre l'armée. De cette prise de conscience à ma récente libération de prison, le cheminement était long et jalonné de réflexions profondes et de conflits internes entre propagande nationaliste et considérations rationnelles et éthiques. J'ai commencé à me poser des questions, non seulement sur la religion dans laquelle j'avais grandi, mais également sur l'humanité et tout ce qui en découle. La plupart des Israéliens ne voient pas uniquement dans le service militaire une obligation au regard de la loi, mais presque un passage indispensable, une marque de prestige et de fierté. Cependant, en m'informant sur le rôle de l'armée israélienne, qui contrôle et réprime des millions de Palestiniens et Palestiniennes, j'ai compris que s'enrôler ne signifiait pas simplement se faire une place dans la société israélienne, mais participer activement à un système de violence, de domination et d'oppression. Je me suis rendu compte que si je m'enrôlais, je ferais moi aussi partie du problème. J'ai compris que je me trouvais face à un choix, appartenir à la société israélienne ou préserver mon sens moral. J'ai choisi le sens moral. J'ai mûri cette décision tout au long d'un processus d'apprentissage et de prise de conscience. Dans mon cas, le refus s'inscrivait dans le contexte du génocide. J'ai refusé de m'enrôler parce que je ne voulais pas être impliqué dans la perpétration du génocide. En Israël, les personnes qui refusent de servir dans l'armée pour des raisons politiques et morales payent un lourd tribut. Cette décision peut avoir des conséquences sur la vie sociale et être synonyme d'ostracisation et de mise au pilori. Elle peut également avoir des conséquences sur le plan juridique, car la conscription militaire est obligatoire. Refuser de s'enrôler pour des raisons d'objection de conscience est passible d'une peine de prison. J'ai été condamné à plusieurs reprises. Dans les prisons militaires, les conditions sont dures. Certains jours, j'ai été placé à l'isolement en raison de menaces de la part d'autres détenus. Chaque jour, je devais rester au garde-à-vous pendant environ 4 heures. Mais je pouvais lire, penser et écrire. J'ai ainsi pu garder l'esprit clair. Je savais que je faisais ce qui était juste et je ressentais une grande sérénité. Les tueries de masse et l'apartheid ne sont pas et ne seront jamais un moyen de garantir la sécurité. Ce sont des crimes contre l'humanité. Plongés dans une terreur existentielle, les enfants vivent en permanence dans la peur de mourir. Ils n'ont rien fait, ils sont juste nés palestiniens. Nous ne pouvons pas construire une société juste avec les canons des armes. Les tueries de masse et l'apartheid ne sont pas et ne seront jamais un moyen de garantir la sécurité. Ce sont des crimes contre l'humanité. Tandis que j'écris ces mots, Israël a rouvert les portes de l'enfer à Gaza et lancé une campagne massive de bombardement, tuant des enfants et des familles entières dans leur sommeil. Partout dans le monde, on évoque le génocide commis par Israël. Et Amnesty International parle en effet de génocide. Des rapports, des articles et des enquêtes continuent d'être produits. La communauté internationale ne peut pas se contenter d'exprimer sa préoccupation. Les exportations d'armes à Israël doivent cesser. Les dirigeants israéliens responsables de crimes internationaux doivent faire l'objet de poursuites. Il faut mettre fin immédiatement au génocide et à l'apartheid. Je devrais conclure par un message d'espoir, mais nous n'avons pas le temps de rêver. Le temps est venu de résister. Voilà, très beau message de ce jeune Israélien. On va maintenant écouter Serge Reggiani dans une chanson très connu, Le Déserteur.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. c'est pas pour vous fâcher. Il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déshériter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Régis, tu te rends compte que cette chanson, elle a été écrite en 1954,
oui.
71 ans, et elle est toujours autant,
d'actualité. Ouais. Et oui, ça fait plaisir de la réentendre. Voilà, on va parler d'un autre sujet, c'est le problème des viols, et notamment du consentement. Seul un oui est un oui. Amnesty International se bat pour que cette inscription du consentement soit inscrite dans les textes, en France notamment. En effet, un rapport sexuel non consenti est un viol. C'est aussi simple que cela. Du moins, cela devrait l'être. La notion de consentement est au cœur de nombreuses réflexions et débats dans notre société. C'est un enjeu de droits humains. C'est pourquoi il est primordial de parler du consentement et de promouvoir une culture du consentement. Il faut mettre ce qu'on appelle la culture du viol, qui banalise, voire justifie les violences sexuelles, notamment le viol dans nos sociétés. Il faut mettre fin à cette culture du viol. La notion de consentement était au cœur des débats lors du procès des viols de Mazan, à l'issue duquel Dominique Pélicaud a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable d'avoir drogué et violé son épouse et d'avoir organisé la venue de dizaines d'autres hommes pour la violer alors qu'elle était inconsciente. Ce procès a refait émerger une question importante, celle de l'intégration de la notion de consentement dans la définition pénale du viol. Il faut lutter en effet contre les stéréotypes du genre « elle ou il n'a pas dit non, elle l'a bien cherché, vu ses vêtements ». Il ou elle avait accepté une relation sexuelle la semaine dernière, donc son consentement valait encore pour aujourd'hui, etc. Tous les préjugés et les stéréotypes de genre sur la définition des violences sexuelles et du consentement sont très répandus. Leurs conséquences sont extrêmement dangereuses. Les victimes ne sont pas crues, elles reportent souvent la faute sur elles-mêmes, finissent par ne pas porter plainte pour viol, et les responsables de ces crimes restent impunis et risquent de récidiver. Pour celles qui décident de porter plainte, c'est un véritable parcours de combattante face à elles. En effet, les femmes victimes de violences sexuelles ou sexistes peuvent être confrontées aux préjugés ancrés dans le système pénal et subir un nouveau traumatisme. C'est ce qu'on appelle la victimisation secondaire. Que ce soit lors d'un débat public, d'un atelier ou d'une discussion sur les réseaux sociaux, il faut être clair. Lorsqu'il s'agit de relations sexuelles, le consentement est essentiel. Le consentement doit être donné librement. Ne pas s'exprimer ou ne pas dire non ne signifie pas donner son consentement. Les personnes inconscientes ou sous l'emprise de l'alcool ou de drogue ne peuvent pas donner leur consentement. Une relation sexuelle n'est pas consentie si elle a lieu sous la contrainte ou la menace. D'autres situations peuvent empêcher une personne de donner son consentement librement, par exemple si elle n'a pas la capacité mentale de consentir ou si elle est mineure. Une relation doit être éclairée. Si l'une des personnes ment ou dissimule délibérément certaines intentions, par exemple, si elle prévoit un rapport non protégé sans en parler, forcer une personne trop ivre pour refuser une relation sexuelle à accepter certaines pratiques n'équivaut pas à l'obtention d'un consentement. Ça doit être spécifique. Consentir à une chose n'implique pas un consentement à aller plus loin. Voici la règle à suivre. En cas de doute, arrêtez et posez la question. Et si le doute persiste, arrêtez. Elle doit être réversible. Donner son consentement une fois ne signifie pas donner son consentement pour toutes les fois suivantes. Elle doit être enthousiaste. La question n'est pas de savoir si une personne dit non, mais si elle dit oui ou donne activement son consentement de diverses manières, verbales ou non. Certaines personnes se demandent s'il faut aller jusqu'à signer un contrat. La réponse est non. Il faut simplement communiquer avec sa ou son partenaire et s'assurer que tous les actes sexuels auxquels on se livre reposent sur un consentement mutuel. Le viol est aujourd'hui défini par l'article 222-23 du Code pénal français comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucogénital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Cette définition du viol peut constituer un obstacle. En l'état actuel de la rédaction de l'article, la seule absence de consentement à l'acte sexuel, le fait de ne pas être consentant à une activité sexuelle, n'est pas suffisant pour caractériser le viol. Telle quelle, la définition présuppose un consentement implicite à tout acte. Concernant la législation française, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes estime que la définition excessivement restrictive du viol, qui repose sur l'absence de consentement dû à la violence, à la menace, à la surprise ou à la contrainte, limite les possibilités de condamnation et rend difficile le parcours des plaignantes et des plaignants. Dans les autres pays, pour qu'un viol soit constitué, le droit exige qu'il ait été fait usage de la force ou de menace ou que la victime ait été dans l'incapacité de se défendre. Pourtant, la plupart des viols ne correspondent pas à ces stéréotypes selon lesquels un inconnu surgit des fourrés. Au contraire, les femmes et les filles sont victimes d'un viol commis par un proche ou un partenaire ou ont des réactions de choc et sont frappées de paralysie involontaire. Adopter une législation fondée sur le consentement n'empêchera pas que les viols soient commis. Cependant, cela constituerait un pas important vers l'évolution des comportements et l'accompagnement de la justice. Les lois guident les attitudes et les comportements. Elles doivent donc reconnaître clairement qu'un rapport sexuel non consenti est un viol. Voilà, nous allons maintenant écouter Camille Lelouch dans sa chanson « N'insiste pas ».
Je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas. Jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. Dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête. N'insiste pas, j'ai plus confiance, j'arrive plus à te pardonner. J'ai trop souffert et ta violence a fini par me briser. N'insiste pas, ouais, je n'en peux plus, ouais, je suis foutu. Qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, tourne, tourne dans ma tête, dans ma tête. Tourne, tourne dans ma tête. N'insiste pas, il est temps d'oublier. N'insiste pas, ton temps est passé. N'insiste pas, c'est ce que tu m'as dit, tu m'avais promis, stop. N'insiste pas, tout est terminé. Tu m'as juré, tu m'as cassé la gueule. T'as dit que tu m'aimais, tu m'as cassé la gueule. Aujourd'hui je m'en vais, je pense à ma gueule. N'insiste pas, c'est ce que tu me disais tous les jours. Ce que je voulais c'était ton amour. N'insiste pas quand je t'empêche de poser tes mains sales sur moi. N'insiste pas, t'es dangereux. Putain, tu caches bien ton jeu. N'insiste pas, c'est terminé. Faut que tu me... Un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête, finis les promesses qui tournent, tournent dans ma tête, tournent, tournent dans ma tête.
Camille Lelouch, N'insiste pas, accompagné au piano.
Voilà, donc on va maintenant parler du droit de manifester qui est remis en cause dans de nombreux pays de nos jours. Et c'est pour ça qu'Amnesty a lancé une campagne mondiale qui s'appelle Manifestez-vous, parce que ça fait partie des droits humains de pouvoir manifester dans une démocratie digne de ce nom. On va parler de la Turquie. En effet, l'arrestation du maire d'Istanbul, qui est le principal leader de l'opposition, a provoqué une vague de contestation dans tout le pays, suivie d'une violente répression. Arrestation massive, restriction de l'accès aux réseaux sociaux, usage disproportionné de la force, les autorités cherchent à étouffer les voix dissidentes par tous les moyens. Les mouvements sont largement portés par une jeunesse bien déterminée à exprimer son refus d'un système liberticide. Une partie d'entre elles n'a connu que le président actuel, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 22 ans. Face à cet élan, les autorités turques ont réagi par des mesures violentes. Premier opposant et critique virulent du président Erdogan, İmamoğlu est devenu la bête noire du président turc après avoir remporté les élections municipales à Istanbul en 2019. Réélu aux mêmes fonctions en 2024, il devait être nommé par son parti, le Parti républicain du peuple, CHP, candidat aux prochaines élections présidentielles. Son arrestation le 19 mars, aux côtés d'une centaine d'autres personnes, s'est tenue quelques jours seulement avant cette nomination. Accusé de corruption et de terrorisme, le maire a été suspendu de ses fonctions et placé sous détention provisoire sur décision de justice. Malgré cela, son parti a maintenu une primaire symbolique. 15 millions de Turcs se sont rendus aux urnes pour exprimer leur soutien à İmamoğlu, dont une large majorité de votants non affiliés au parti. Si l'utilisation d'accusations liées au terrorisme pour arrêter et poursuivre les opposants n'est pas une nouveauté, ces dernières arrestations et restrictions sont symptomatiques d'une intensification alarmante de la répression des autorités à l'égard de la dissidence. Les images analysées par nos équipes révèlent un recours totalement injustifié à la force par les forces de police. Frappés à coups de matraque et de pied, alors qu'ils étaient à terre, certains manifestants ont été victimes de violences totalement disproportionnées. Les tirs de balles en caoutchouc, parfois à bout portant au niveau du visage et du torse, ont fait de nombreux blessés dont certains ont dû être hospitalisés. L'accès aux réseaux sociaux a été restreint pour empêcher la diffusion d'informations et limiter l'organisation des protestations. En Turquie, la dernière décennie a été marquée par un durcissement considérable de la répression, ainsi que par un recul inquiétant pour les droits humains. Les poursuites et condamnations à l'encontre de défenseurs des droits humains et des responsables politiques de l'opposition se sont multipliées. La liberté de la presse a été sévèrement restreinte, avec une censure croissante des médias et l'emprisonnement de nombreux journalistes en raison de leur travail d'investigation ou de leur couverture critique du gouvernement. Les lois relatives à la lutte contre le terrorisme et à la désinformation sont utilisées pour faire taire les voix dissidentes. L'utilisation abusive de ces lois pour intimider, harceler et réduire au silence la dissidence pacifique a conduit à un resserrement de l'étau sur la capacité de la société civile à exercer ses droits aux libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique. Aujourd'hui, le droit de manifester est menacé partout dans le monde. Face à l'urgence, notre organisation a lancé cette campagne mondiale pour défendre ce droit, le droit de manifester. Il faut respecter et protéger le droit de réunion pacifique et le droit à la liberté d'expression, lever les interdictions générales de manifester, libérer toutes les personnes détenues de manière injustifiée et arbitraire, uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression et de manifestation pacifique. Si vous voulez agir, vous pouvez rejoindre notre campagne « Manifestez-vous ». Vous recevrez les informations sur l'état de droit de manifester dans le monde et en France, des propositions d'action pour le défendre, et vous pourrez suivre nos avancées et les victoires obtenues ensemble. Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site amnesty.fr. On va maintenant écouter une chanson de Graham Allred, « Le jour de clarté ». On prend des chansons anciennes.
Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté. Quand tous les affamés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme et on peut parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, les cris de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres, et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur, et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés les opprimés entendent tous l'appel, les cris de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
Voilà, très belle chanson, ancienne mais très belle. Voilà, qui chante justement le désir de liberté des hommes. Je vais vous parler de notre journal, La Chronique, qui paraît une fois par mois et que vous pouvez lire à la médiathèque de Digne, puisque le groupe dinois d'Amnesty a abonné la médiathèque. Alors, le dernier numéro d'avril 2025 parle de différents sujets. Donc, il y a un dossier sur les villages très surveillés. De plus en plus de petites communes rurales, pourtant peu touchées par la délinquance, s'équipe en caméra. Pourquoi ? Notre journaliste a rencontré des maires, des industriels du secteur, des gendarmes, des villageois. Il dévoile une politique publique coûteuse, d'une efficacité discutable et attentatoire aux libertés individuelles. Il y a un reportage aux États-Unis sur les polluants éternels. Donc on s'est rendu dans le Minnesota et on raconte comment la multinationale 3M, qui a inondé la planète de polluants éternels, a longtemps nié sa responsabilité. On retrace le combat d'une jeune fille à l'origine d'une loi interdisant ces FAS, P-F-A-S, polluants éternels, cancérogènes, dans le Minnesota. Vous verrez aussi un récit sur le juge qui inculpa Pinochet. Et puis, vous avez un éditorial de notre présidente sur le voile dans le sport. On a aussi des pages qui parlent de livres, de films, de culture. Voilà. Alors, par exemple, dans notre numéro d'avril, on nous présente une bande dessinée sur qui s'appelle Xi Jinping, l'empereur du silence. Éric Meyer relève le défi d'un projet aussi nécessaire que complexe, retracer la vie de Xi. Malgré le peu d'informations indépendantes sur le sujet, l'auteur, qui fut pendant 30 ans journaliste en Chine, réussit à nous rendre intime l'homme qui règne sur Pékin. À travers des scènes extrêmement détaillées, il dévoile l'enfance dorée d'un haut dignitaire du parti, son adolescence en camp de rééducation après que son père a été accusé de trahison et banni. Sous une apparente bonhomie, Xi cache une détermination qui lui a permis de gravir les échelons du pouvoir en éliminant ses rivaux les uns après les autres. On nous parle aussi d'un livre qui vient de sortir de notre présidente d'Amnesty au niveau mondial qui s'appelle Agnès Callamard, qui était une enquêtrice de l'ONU avant d'être nommée secrétaire générale d'Amnesty International. À force d'enquêter, cette experte française des droits humains confie avoir apprivoisé cette cohorte qui m'accompagne, parfois me précède. Dans une enquêtrice à l'ONU, le livre qu'elle co-signe avec Alexandre Duc, Agnès Callamard dévoile les coulisses de ses missions en tant que rapporteuse spéciale des Conseils des droits de l'homme des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires. À ce poste qu'elle a occupé de 2016 à 2021, les émotions sont mises de côté. Sa principale motivation, l'indignation. Ce moteur lui permet de surmonter les critiques. Pourquoi ce cas et pas un autre ? Et les insultes, surtout lorsqu'elle met en cause les États-Unis. Pour l'ONU, elle a enquêté sur plusieurs affaires, l'exécution des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon au Mali en 2013, la frappe du drone américain qui tue le général iranien Soleimani, la tentative d'empoisonnement de l'opposant russe Navalny en 2020, ou encore l'assassinat du journaliste saoudien Khashoggi, au consulat d'Istanbul le 2 octobre 2018. Un enregistrement de 45 minutes est alors mis à sa disposition. Khashoggi suffoque pendant 7 minutes 30 avant d'être démembré. Aucune émotion ne transparaît dans les propos de ses bourreaux. Ces hommes s'apprêtaient à dépecer un animal, il en irait de même. Voilà, donc c'est le livre qui s'appelle « Une enquêtrice à l'ONU » d'Agnès Callamard aux éditions Flammarion. Voilà, puis vous trouverez également deux lettres que vous pouvez faire, qu'on appelle les actions du mois, une pour un prisonnier de Taïwan et l'autre pour Silem Ben Cédrine, qui est une femme âgée de 74 ans en Tunisie, qui est une défenseure des droits humains et qui est emprisonnée pour cela. Voilà, n'hésitez pas à aller lire ce journal. Vous pouvez également vous abonner, hein, même si vous n'êtes pas membre d'Amnesty. Il n'y a aucun problème. Alors, nos prochaines actions, nous nous retrouverons le mercredi 30 avril à 17h en Réunion, au 83 Avenue de Verdun. Si jamais ça vous intéresse de voir comment ça se passe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, on prépare la foire aux livres d'Amnesty International, puisque nous ne demandons aucune subvention d'aucun État ni, ni multinationales. Nous vivons uniquement par les dons et les cotisations que le groupe verse à Amnesty. Donc on fait ces foires aux livres depuis très longtemps, hein, ça fait plus de 25 ans, et on recueille de l'argent pour notre mouvement, pour les enquêtes, les actions. Voilà. Alors, cette foire aux livres aura lieu le vendredi 25 avril de 9h à 18h dans la salle de l'Atrium à Digne-les-Bains et le lendemain, le samedi 26 avril, de 9h à 14h. Voilà. Venez, on a beaucoup de nouveaux livres qu'on nous a donnés et des livres intéressants. On essaye de les ranger le mieux possible. D'ailleurs, si vous voulez nous aider pour les porter et pour les ranger, vous pouvez venir le mercredi 23 avril à partir de 14h à l'Atrium et de même le samedi 26 avril à partir de 14h à la fin de notre foire aux livres pour remballer ce qui reste. Voilà, alors je vous rappelle donc les dates. Foire aux livres d'Amnesty International, salle de l'Atrium à Digne-les-Bains, le vendredi 25 avril de 9h à 18h et le samedi 26 avril de 9h à 14h. Voilà, donc on va maintenant terminer cette émission avec Leni Escudero. Gardez l'espoir, malgré toutes les nouvelles difficiles que je vous ai annoncées. Il faut quand même garder l'espoir.
Merci Régis, à bientôt.
Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. La vie un jour vient te parler d'amour. Et c'est à toi alors de retenir l'instant de joie qui fait les souvenirs. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. Et dis-toi bien que même le chagrin, quand il s'efface, on se retrouve nu. C'est ce qui reste du bonheur perdu. La vie chavire du bon au pire selon le vent. Fait carabosse et son carrosse t'oublie souvent. T'as une corde, fous la discorde au bois de Meudon. Suffit d'un geste, mais toi tu restes, la vie c'est bon. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. La vie un jour vient te parler d'amour. Et c'est à toi alors de retenir l'instant de joie qui fait les souvenirs. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. Et dis-toi bien que même le chagrin, quand il s'efface, on se retrouve nu. C'est ce qui reste du bonheur perdu. La vie est garce, elle joue la farce du droit divin. Dresse les épaules, choisis le rôle qui te va bien. Joue l'existence de ceux qui pensent mourir demain. Mais dis je t'aime comme un poème qui n'a pas de fin. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. La vie un jour vient te parler d'amour. Et c'est à toi alors de retenir l'instant de joie qui fait les souvenirs. Garde l'espoir, même aux jours les plus noirs. Et dis-toi bien que même le chagrin, quand il s'efface, on se retrouve nu. C'est ce qui reste du bonheur perdu.